Aujourd'hui, l'on ne songe plus à nier l'existence historique de Jésus de Nazareth. On utilise une autre méthode, celle qui consiste à démythifier son personnage, c'est-à-dire à le déposséder du caractère miraculeux et divin que la niaiserie et la crédulité des chrétiens persistent à voir en lui. Jésus de Nazareth n'est plus pour beaucoup qu'un philosophe comme tant d'autres avant et après lui, qui a su marquer son époque d'une profonde empreinte. On parle de Jésus le révolutionnaire, on évoque même le communisme de Jésus. Son influence sur le peuple étant considérée comme séditieuse, il fut simplement liquidé. C'est à peu près toute l'idée que l'on se fait de lui dans certains milieux. Récemment encore, à l'occasion de la sortie du dernier film de Luis Buñuel, dans lequel le producteur athée met en scène divers personnages religieux, y compris le Christ, on a pu entendre certains critiques donner leur avis sur ce personnage décidément obsédant qu'est le Christ, sur ce ton détaché et pédant que prennent ceux qui sont au courant de tout, ou du moins qui veulent en donner l'impression. Mais que savent-ils au juste de Jésus de Nazareth ? Parleraient-ils avec autant d'aplomb s'ils avaient lu le récit des témoins du Christ que nous préserve l'Évangile ? Car, hors l'Évangile, nous ne savons presque rien de Jésus. Songeraient-ils à discuter le personnage de Voltaire ou de Rousseau avant d'avoir lu toute leur œuvre ? Car ce qu'ils ont dit est l'expression même de leur pensée, c'est-à-dire de leur être. Un homme appelé Jésus a vécu sous le règne de Tibère et est mort crucifié. Voilà l'événement qui appartient aux données de l'histoire universelle. En ce qui concerne le détail de l'existence et de la doctrine de Jésus, les évangiles et les autres écrits du Nouveau Testament demeurent la source unique. Ayons donc le bon sens et la loyauté de consulter ces sources, au lieu de lire ce qu'un autre a écrit ou raconté sur ce sujet. Or, si l'on a le courage d'aller aux sources, on se heurte comme à un rocher au personnage qu'on y trouve, et l'on commence à comprendre pourquoi il vit encore aujourd'hui, après 2000 ans, dans le cœur de millions de disciples. En effet, on n'y trouve pas un philosophe qui donne simplement son avis sur le sens de l'existence, ni un enthousiaste ou un exalté qui cherche à agiter les foules par ses doctrines politiques. On y trouve au contraire un homme parfaitement équilibré, qui jette sur le monde et les hommes un regard lucide et nécessaire. Il sait qu'il a une mission à remplir et il la définit clairement. Elle dépasse infiniment toute perspective sociale ou politique. Elle vise essentiellement à relier l'homme avec son Créateur. Relier, c'est-à-dire lier à nouveau, car l'union était rompue. Nous allons noter aujourd'hui la plupart des grandes déclarations du Christ dans lesquelles il définit sa mission parmi les hommes. Nous découvrirons alors le véritable Christ, celui qui se révèle dans ce qu'il dit, dans le message qu'il apporte, tel qu'il a voulu se faire connaître au monde. Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Cette déclaration qui se place au seuil de son ministère public le situe d'emblée par rapport à l'Ancien Testament. Il est venu accomplir, c'est-à-dire réaliser, toutes les prophéties de l'Ancien Testament à son égard. Il est le Messie, l'envoyé de Dieu, annoncé par la loi et les prophètes. Mais en même temps, il va parfaire l'ancienne loi en révélant son sens profond. C'est ainsi qu'il s'impose aussi comme le législateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, alliance qu'il scellera par son sang. Dès le commencement de son ministère public, il va chercher à prouver au peuple qu'il est l'aboutissement de tout l'Ancien Testament, sa raison d'être en quelque sorte. Un jour, dans une synagogue, on lui demande, selon la coutume, de faire la lecture. On lui remit le rouleau de la prophétie d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ce texte qu'il venait de lire avait été écrit quelques 6 siècles auparavant. Tout le monde le savait. Imaginez alors la surprise de ses auditeurs lorsque Jésus leur déclara « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » L'ère messianique annoncée par les prophètes était arrivée. Aujourd'hui, Dieu offrait sa grâce aux pécheurs. Aujourd'hui, l'aveugle va recouvrer la vue et l'esclave retrouver la liberté. Et l'on sent que ce n'est pas tant du soulagement des maux physiques dont il est ici question, que de la guérison des âmes meurtries, aveugles et prisonnières à cause du péché. Il ne manque pas de préciser plusieurs fois le caractère intérieur de sa mission dans le sens des âmes. Par exemple, lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs » et encore « Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus ». Où est l'agitateur politique dans ces paroles? Où est même le philosophe raisonneur et subtil? Et si l'on se plaît à voir en lui un révolutionnaire, qu'on veuille bien d'abord préciser ce terme. Si par là on veut dire qu'il est venu réveiller les consciences, les sortir de leur torpeur et de leur enlisement pour leur faire sentir la misère de leur état et leur faire connaître le salut de Dieu, alors d'accord pour le Christ révolutionnaire. Mais qu'on se garde bien de le séparer de sa mission, qui est essentiellement d'apporter au monde la guérison de son mal, c'est-à-dire du péché. En sa personne, c'est Dieu lui-même qui intervient dans les affaires des hommes pour leur montrer le seul chemin à suivre parmi tous ceux qu'on leur propose et tous ceux qu'ils ont essayés, la seule vérité parmi toutes les fausses certitudes et les promesses trompeuses qui les découragent et les aigrissent, la vie véritable, celle qu'ils ne se laissent pas vaincre par la mort, mais qui jaillit jusque dans l'éternité. « Je suis la lumière du monde », a-t-il encore dit. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Et c'est bien là le problème de notre monde, qui ne sait où il va ni dans quelle direction il doit aller. La venue du Christ parmi les hommes est comparée à l'irruption de la lumière au sein de l'obscurité, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, disait la prophétie. Et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Oui, le Christ est le seul espoir du monde. Mais parce que le monde vit sans Christ, parce qu'il le considère comme un simple personnage historique avec à peine plus d'intérêt que Napoléon ou Socrate, parce qu'il dédaigne son message, nous nous trouvons au bord du gouffre, menacés par la guerre, minés par les conflits sociaux, sapés par l'inquiétude. Pourtant, nous ne manquons pas de moyens techniques. Nous ne manquons pas de savants, ni de professeurs, ni de penseurs, ni de philosophes, mais il semble bien que nous soyons encore dans l'obscurité et que notre civilisation soit un échec. Il suffit de jeter un coup d'œil au bilan de ces 60 dernières années, pendant lesquelles nous avons réussi à déclencher 50 conflits. Et c'est un lieu commun que de parler de cataclysme universel. À cet égard, il faut rappeler une autre déclaration de Jésus que l'on passe sous silence, lorsqu'on ouvre le dossier Jésus de Nazareth pour discuter son cas. « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui font profession de savoir et de connaître et qui n'ont que faire de ces enseignements, pas plus que de ces avertissements, parce qu'ils ont déjà décidé de ce qu'ils veulent croire, ceux-là sont les vrais aveugles. Ceux au contraire qui cherchent, ceux qui souffrent de ne pas connaître le vrai sens de leur vie, et de n'avoir aucune espérance valable. Ceux qui confessent leur ignorance devant le mystère de la vie, ceux-là sont prêts à recevoir la vraie lumière, celle qui éclaire la route jusqu'au bout, celle qui guide avec fidélité et vérité, celle qui réchauffe, réconforte et donne la vie. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par sa venue dans le monde, un discernement s'opère entre les hommes, en fait, un renversement des rôles. La folie des croyants est la sagesse de Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'est pas possible de séparer la personne historique du Christ d'avec cette mission qui dépasse l'histoire et qu'il vient de rappeler. Elle est sa raison d'être. Je suis venu pour cela. Toute explication qui ne tient pas compte de ces déclarations pour ne faire de lui qu'un simple phénomène social en Palestine est inqualifiable. C'est l'aveuglement dont il a parlé, aveuglement d'autant plus profond qu'il est volontaire et farouchement entretenu. Pour conclure, il faut rappeler encore une fois le but suprême de sa mission, qu'il exprime en ces termes « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Comment peut-on méconnaître le sens que Jésus donne à sa mort? Il est venu pour être immolé et son sacrifice servir de rançon pour ceux qui voudront se libérer de leurs péchés et retrouver la communion avec Dieu. Dédaigner de prendre cela au sérieux, c'est rejeter le Christ d'un seul coup. Il y a peu de passages qui nous décrivent le Christ élevant la voix. Il y en a un qui mérite d'être rappelé, où Jésus, peu de temps avant sa mort, s'écrie devant la foule, comme pour résumer une dernière fois le sens de sa mission parmi les hommes. « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Combien de temps encore resterons-nous sourds à son appel et réfractaires à sa lumière ?